de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices dans le monde entier. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, vendredi 11 octobre 2019. Et comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mots d'Indonésie. La rubrique suivante, magazine culturel, l'Indonésie en couleur. Et avant de terminer cette émission, vous allez écouter une chanson indonésienne. Voilà notre programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir chers auditeurs, vous écoutez maintenant le journal d'aujourd'hui. Je vais vous présenter quelques informations importantes, entre autres, dans le cadre de la Journée mondiale de l'alimentation, la FAO encourage la promotion des recettes alimentaires traditionnelles indonésiennes. L'Indonésie et la Corée du Sud renforcent leurs relations à travers la génération du millénaire. Le gouvernement provincial de Sulawesi du Sud explore une collaboration avec l'Université de Tasmanie. Bon, chers auditeurs, voici les informations incomplètes. Dans le cadre de la Journée mondiale de l'alimentation, la FAO encourage la promotion des recettes alimentaires traditionnelles indonésiennes. En commémoration de la Journée mondiale de l'alimentation le 16 octobre, l'Organisation mondiale de l'alimentation FAO en Indonésie encourage les populations à participer de nouveau à la promotion de la richesse des recettes traditionnelles dans le pays. Dans une interview avec Voice of Indonesia récemment, le représentant adjoint de la FAO en Indonésie, Ageng Herianto, a déclaré qu'en promouvant la recherche des recettes traditionnelles indonésiennes, la communauté pourrait être encouragée à préparer ses propres recettes qui devraient permettre de produire des aliments variés et nutritifs.
Data terakhir yang kita kumpulkan, dapatkan, itu sebenarnya kita.
Selon les dernières données, en fait, en Indonésie, il existe 4000 recettes de plats traditionnels. Mais à cause des changements dans notre culture alimentaire, tout sera réduit, va diminuer. Nous devons à nouveau promouvoir nos recettes traditionnelles où nous avons besoin d'innovation. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, nous n'avons de plus en plus de temps pour nous transformer des aliments. Mais il pourrait aussi s'agir d'un mouvement mené par la communauté pour le promouvoir. Ne perdez pas la richesse d'autres nourritures. C'est ce qu'il faut promouvoir. La FAO veut aussi le promouvoir. Cela signifie que dans un langage plus technique, il s'agit d'une question gastronomique. Nous utilisons les recettes traditionnelles pour promouvoir nos aliments. Lors de la commémoration de la Journée mondiale de l'alimentation de cette année, le thème est « Un régime alimentaire sain et abordable ». Selon Ageng Herianto, la culture de la consommation de personnes qui dépendent davantage de la restauration rapide a changé, ce qui contribue à augmenter le nombre de personnes atteintes de maladies non transmissibles dans la communauté. En répondant aux besoins nutritionnels individuels, Agen espère pouvoir réduire le nombre de personnes atteintes des maladies non transmissibles et réduire la charge qui pèse sur le gouvernement en matière de protection de la santé dans le pays, ce qui reste un défi. L'Indonésie et la Corée du Sud renforcent leurs relations à travers la génération du millénaire. La génération du millénaire devrait renforcer les relations entre l'Indonésie et la Corée du Sud dans le cadre du dialogue des jeunes dirigeants de la République de Corée, le premier dialogue des jeunes dirigeants de RI et ROK, qui s'est tenu à Jakarta du 10 au 11 octobre 2019. Cette activité était l'un des résultats d'une réunion bilatérale entre le président indonésien Joko Widodo et le président sud-coréen Moon Jae-in en septembre 2018. Le dialogue entre les jeunes dirigeants d'Indonésie et de la République de Corée aura lieu chaque année. L'ambassadeur de Corée du Sud en Indonésie, Kim Chang-beom, après l'ouverture du dialogue au ministère indonésien des Affaires étrangères à Jakarta, a déclaré jeudi que c'était la première fois qu'il tentait de recueillir les votes et les suggestions de la prochaine génération de dirigeants. Le dialogue a été participé par 26 millénaires de l'Indonésie et de la Corée du Sud, de professions et de milieux différents, produira une recommandation de politique pour les gouvernements des deux pays. Le gouvernement provincial de Sulawesi du Sud explore une collaboration avec l'Université de Tasmanie. Le gouvernement provincial de Sulawesi du Sud est prêt à collaborer avec l'Université de Tasmanie en Australie par l'intermédiaire de l'Institut des études marines et antarctiques, IMAS, sous la forme de recherches et d'études visant à optimiser la gestion des ressources marines et halieutiques dans le sud de Sulawesi. IMAS est un institut réputé pour mener des activités de recherche et de développement sur les ressources maritimes en Australie. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur de Sulawesi du Sud, Nurdin Abdullah, à Makassar jeudi. Terry Billay, le directeur exécutif de IMAS, a dit qu'il était prêt à collaborer avec le gouvernement de Sulawesi du Sud dans la recherche et des études pour le développement des ressources disponibles dans la province de Sulawesi du Sud. L'Agence d'évaluation et d'application des technologies et des institutions japonaises renforce la recherche sur les énergies propres. L'Agence d'évaluation et d'application des technologies a signé un protocole d'entente avec Kyuden Mirai Energy Company Incorporated, une filiale de Kyushu Electric Power, une entreprise d'électricité du Japon, avec Awina Synergy International au Japon mercredi. Hammam Riza, le chef de l'Agence d'évaluation et d'application des technologies, a déclaré jeudi dans un communiqué reçu par Antara à Jakarta que la signature d'un mémorandum d'accord visait à renforcer la recherche sur les énergies propres dans la perspective des objectifs de développement durable. Cette coopération vise également à encourager l'accélération de la maîtrise des technologies dans le secteur de l'énergie, notamment en ce qui concerne le développement des installations de recharge de véhicules électriques. Un jeune de Goa a remporté la première place de campagne sociale internationale en Thaïlande. Un jeune de la régence de Goa, Sulawesi du Sud, Wiranto Ahmed, a remporté la première place dans la campagne sociale internationale sur les objectifs de développement durable organisée par 17 modèles d'objectifs mondiaux des Nations Unies, GGMUN, en Thaïlande. Wiranto Ahmed, via un réseau social thaïlandais, a déclaré jeudi que toutes ces relations était due au travail dur et à la discipline. Il a déclaré que GGMUN était une plateforme permettant aux futurs jeunes diplomates de comprendre les questions mondiales et leur politique avec des actions concrètes à prendre. Selon Wiranto, le système de concurrence impliquait des jeunes de plus de 50 pays du monde. Ils ont choisi un thème parmi 17 points de problèmes mondiaux qui est le programme de travail des Nations Unies. Les produits de l'industrie électrique à Bogor pénètrent le marché d'exportation américain. L'industrie électronique nationale PT Selaraschitra Nusantara Perkasa SCNP a pénétré le marché américain en exportant 3000 unités de purificateurs d'air au cours de la première étape. Le directeur des opérations de SCNP, Sundi Abogor, a annoncé jeudi qu'il voit les clients potentiels dans l'avenir. L'objectif est de 100 millions d'unités par an pour divers produits tels que les aspirateurs, les cafetières et les mélangeurs. Sundi a déclaré que les exportations de purificateurs d'air étaient la première sur le marché américain et étaient devenues l'une des formes de la stratégie de développement des produits et de l'expansion du marché de PT Selaraschitra Nusantara Perkasa SCNP face au marché mondial. Bon, chers auditeurs, c'était les nouvelles. Bonsoir, chers auditeurs. Voici le commentaire d'aujourd'hui intitulé « Le conflit au Cachemire entre l'Inde, la Chine et le Pakistan ne se terminera pas ». On peut s'assurer que tout conflit régional prolongé ou guerre civile implique toujours un grand pays. La guerre civile en Syrie et la situation en Afghanistan en sont deux exemples significatifs. La Russie, les États-Unis et l'Iran, y compris la Turquie, ont été impliqués dans une guerre en Syrie où la querelle opposait initialement le gouvernement et l'opposition. En Afghanistan, la participation des États-Unis et de la Russie a été longue. Un autre conflit qui dure depuis plus de 5 décennies est le différend sur la région du Cachemire. Ce conflit concerne non seulement le Pakistan et l'Inde, mais également la Chine. Les trois pays contestent des parties du Cachemire qui sont revendiquées comme leur territoire. Les derniers développements montrent le soutien de la Chine au Pakistan dans son conflit avec l'Inde. Il est intéressant d'observer le soutien de Beijing, car il a été précisé précisément quelques jours avant la réunion du président chinois Xi Jinping avec le premier ministre indien Narendra Modi. La réunion des deux dirigeants devrait avoir lieu ce week-end à Beijing. Le président chinois Xi Jinping a fait savoir que le soutien de la Chine au Pakistan sur la question du Cachemire avait été rencontré par le premier ministre pakistanais Imran Khan à Beijing mercredi 9 octobre. Le président Xi Jinping a déclaré que l'Inde ne devait pas agir unilatéralement sur le Cachemire. Beijing a souligné la nécessité de résoudre les conflits par le dialogue. Depuis des décennies, les trois pays, la Chine, l'Inde et le Pakistan, sont en litige car chaque pays reconnaît le contrôle d'une partie du Cachemire. Le Pakistan reconnaît Azad Cachemire, l'Inde revendique le Jammu et Cachemire, tandis que la Chine affirme qu'Aksai Chin est son territoire. Les trois pays n'ont pas été impliqués une seule fois dans des affrontements armés, même dans la guerre du Cachemire. Par conséquent, même si des pourparlers ont eu lieu à plusieurs reprises, le conflit au Cachemire n'est pas terminé. La rencontre entre le premier ministre chinois Xi Jinping, le premier ministre Imran Khan et le premier ministre Narendra Modi ne devrait pas résoudre le différend au Cachemire. Chers auditeurs, c'était le commentaire.
Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 11 octobre. Le 11 octobre 1968, NASA lance Apollo 7, la première mission spatiale américaine habitée avec succès. Apollo 7 est la première mission de lancement humain du programme Apollo. Cette mission est une mission de 11 jours en orbite autour de la Terre, ainsi que le premier lancement habité du lanceur de roquettes Saturn IB et la première mission spatiale à trois hommes en provenance des États-Unis. Il s'agissait du capitaine de marine Walter M. Shearer Jr., du major de l'armée de l'air Don F. Essel et d'une pilote civile Walter Cunningham. Cette mission a été lancée de Cap Canaveral en Floride aux États-Unis le 11 octobre 1968 et a atterri à nouveau le 22 octobre 1968. Apollo 7 a effectué une orbite dans l'espace pendant 10 jours, 20 heures, 9 minutes et 3 secondes, avec un nombre total de trajectoires orbitales de 163 fois. Le 11 octobre 1976, l'arrestation de 4 terroristes en Chine. 4 personnalités radicales, dont la veuve du fondateur de la République populaire de Chine, Mao Zedong, Jiang Qing, également connue sous le nom de Madame Mao, ont été arrêtés le 11 octobre 1976. Le nouveau chef du Parti communiste chinois, Hua Guofeng, a ordonné l'arrestation de 4 personnes, la bande de 4. Outre Jian, les 3 personnalités arrêtées étaient Wang Hongwen, Yao Wenyuan et Zhang Shunxiao. Ces 4 personnes appartenaient au cercle du pouvoir chinois de l'ère Mao et soutenaient le mouvement de la révolution culturelle qui massacrait les intellectuels des groupes de l'opposition et punissait également Ces 4 personnes appartenaient au cercle du pouvoir chinois de l'ère Mao et soutenaient le mouvement de la révolution culturelle qui massacrait des intellectuels et des groupes de l'opposition et punissait illégalement ceux qui étaient considérés comme des bourgeois et des pro-impérialistes en Chine. Les 4 accusés ont ensuite été reconnus coupables et condamnés à mort, ce qui a finalement été réduit à la réclusion à perpétuité. Musique. Le 11 octobre 2012, la Journée internationale des fils. La Journée internationale des fils tombe le 11 octobre, créée par les Nations Unies. Depuis 2012, la Journée internationale des fils a été célébrée par plus de 70 pays. Cet avertissement vise à reconnaître les droits des femmes et les défis uniques auxquels sont confrontés les filles du monde entier. La Journée internationale des filles met l'accent sur la nécessité de s'attaquer aux problèmes auxquels les femmes sont confrontées et de promouvoir leur autonomisation et la réalisation de leurs droits fondamentaux. Les adolescents ont droit à une vie sûre éduqué et en bonne santé. Cher ami, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Kertasku kan melaju membawa surat cinta bagimu, kata-kata yang sedikit gila.
C'était une chanson intitulée Bateau en papier, chantée par Maudie Ayunda. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Et restez toujours avec nous, Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs. Vous écoutez la voix de l'Indonésie avec la rubrique Mon Indonésie, avec moi, Audrey. Ce soir, on a le sujet l'Indonésie et Singapour s'accordent sur une collaboration dans divers domaines. Le président indonésien Joko Widodo et le premier ministre de Singapour Lee Hsien Loong ont convenu d'intensifier la coopération dans plusieurs domaines tels que la sécurité, l'économie et l'éducation. Le président Joko Widodo au palais de Singapour mardi 7 octobre a déclaré que l'Indonésie se félicitait du cadre de négociation pour l'information de vol des régions. FIR, ou contrôle de l'espace aérien, qui avait été convenu par les deux pays. L'Indonésie respecte la position de Singapour en matière de supervision de son espace aérien. L'équipe technique indonésienne a donc entamé les négociations et a accéléré les négociations. Le président Joko Widodo et le premier ministre Lee Hsien Loong se sont rencontrés dans le forum de la retraite des dirigeants qui a lieu chaque année depuis 2017. Au cours de la réunion, les deux chefs du gouvernement et leurs ministres ont discuté de questions techniques dans différents domaines. L'Indonésie et Singapour renforceront également la coopération financière entre les banques centrales des deux pays en ce qui concerne la gestion de la liquidité en devises, accords bilatéraux de gestion de la liquidité. Le président Joko Widodo a également salué le nombre croissant d'entreprises participant au développement de la zone industrielle de Kendal et du Nongsa Digital Park à Batam. Les deux pays ont convenu d'encourager la coopération bilatérale dans les domaines de l'investissement et du commerce. Dans le domaine des infrastructures, l'Indonésie offre une coopération en matière de financement d'infrastructures, notamment le train Makassar-Parepare et l'aéroport de Labuan Bajo. Dans le domaine de l'éducation, les deux pays encouragent la coopération dans le domaine de l'enseignement professionnel, notamment par le fonctionnement de l'école polytechnique de Kendal et de la bourse Rising, ou bien République d'Indonésie et Singapour. L'Indonésie et Singapour ont également convenu d'encourager l'économie numérique dans les domaines des technologies financières, du commerce électronique, des services de données, du développement des technoparcs et du pôle régional d'innovation. Dans le même temps, le premier ministre singapourien Lee Hsien Loong a déclaré que le lien économique Indonésie-Singapour s'était renforcé et que Singapour était devenu le plus grand investisseur étranger en Indonésie depuis 2014. Pour preuve, la zone industrielle de Kendal représente 800 millions de dollars avec 60 entreprises et devrait créer 7 millions d'emplois. Singapour renforcerait également la coopération à long terme dans la région de Batam Bintan Karimun afin de pouvoir prendre en charge les passagers en provenance de l'aéroport de Changi. Le président Joko Widodo et le premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, ont également assisté à la signature d'un accord sur la facilitation et la sauvegarde de l'échange de données électroniques ainsi que d'un protocole d'accord concernant la coopération en matière d'archivage. L'accord d'archivage permet aux deux institutions de partager leurs connaissances archivistiques sur l'histoire et la culture. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie.
Kau datang mengisi hidupku.
Kau kan jadi milikku selamanya.
Kau jalan tetap.
de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta et merci d'être fidèle à notre antenne. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Toi » chantée par T5. Vous êtes toujours avec nous, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.bonews.id. Chers amis, écoutons maintenant Magazine Culturel. Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Maintenant, nous allons vous présenter un magazine culturel intitulé « Un craquelin mouillé ». Il n'est pas difficile de trouver des craquelins en Indonésie. Cette nourriture est souvent présentée pour accompagner le plat principal. Les craquelins sont des collations à base de la farine de tapioca avec un mélange de crevettes ou de poissons. C'est savoureux et croustillant. Il est différent des craquelins en général. Ils sont croustillants et secs. Les craquelins de la région de Kapuas Hulu dans la province de Kalimantan Occidentale sont mous et humides. Ils sont connus sous le nom de craquelins mouillés. La population locale nommée Temet. Temet est formé ovale avec une longueur de 15 jusqu'à 25 cm, un diamètre d'environ 2 jusqu'à 3 cm. Il existe deux variantes de goût de ces craquelins, à savoir le poisson toman et le poisson belida. Pour le préparer, de la viande de poisson belida ou toman est mélangée avec de l'ail, du poivre, du sel, de la farine de sagu. Et ensuite, ils sont mélangés jusqu'à l'obtention d'une texture moelleuse. Après cela, il est elliptique et cuit à l'eau bouillante. Après la cuisson, les craquelins mouillés sont coupés en morceaux avant d'être mangés. D'habitude, les vendeurs préparent deux types de sauce chili selon leur goût. Le goût savoureux et l'arôme de poisson se mêlent lorsque vous mangez des craquelins mouillés. Bien que provenant de la région de Kapuas Hulu, ce produit comestible peut également être trouvé dans un certain nombre d'autres districts tels que Sintang, Sekadau et Sanggau, y compris la ville de Pontianak. Le prix est assez abordable. Pour une portion de craquelin mouillé, le prix environ 10 000 rupiah jusqu'à 15 000 rupiah. Chers amis, c'était Magazine Culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Kau dan ku bersama. cinta. Meski tahu asmara kita takkan sanggup kemana-mana. Oh, 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 betapa bodohnya aku. Tak bisa lari dari bayang-bayangmu. Seakan diriku terpenjara.
C'était une chanson intitulée Disparaître, chantée par Andira. Vous êtes toujours avec nous, la voix de l'Irnésie, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinus.id. Chers amis, écoutons maintenant l'Irnésie en couleur.
Bonsoir chers auditeurs, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie. On se rencontre encore dans la rubrique l'Indonésie en couleur. Ce soir avec moi Audrey, dans cette édition on a le sujet de trois écrivains indonésiens invités comme conférenciers au Festival international de la littérature. L'écrivain indonésien Sapardi Djoko Damono, Gunawan Muhammad et le jeune écrivain Norman Erickson Pasaribu seront l'un des conférenciers du festival littéraire de Georgetown GTLF qui doit revenir les 21 et 24 novembre à Georgetown, Penang, Malaisie. le plus grand événement littéraire international annuel de la Malaisie, reflétera les 100 dernières années de la littérature mondiale. Le prestigieux lauréat du prix littéraire Man Booker International Prize 2019, Joka Alharti, lauréat du prix littéraire 2019 de la BERD, Hamid Ismailov, et un autre écrivain de renom qui participera également à cet événement, le poète japonais Hiromi Ito, le rédacteur et intellectuel Elliot Weinberger, l'écrivain du français djiboutien Abdurrahman Waberi et le poète chinois contemporain Si Chuan et l'historienne de la Chine moderne Rebecca Ikar. L'année dernière, GLTF a présenté jusqu'à 64 émissions et a été suivi par plus de 6000 participants. Pour cette année, la GTLF présentera des conversations, des tables rondes, des lectures, des performances, des projections de films, des ateliers et d'autres activités. Pour la première fois, ce festival organise également des ateliers créatifs hebdomadaires pour les étudiants tous les samedis du 5 au 26 octobre dans des bibliothèques de toute la ville sur des thèmes liés à l'écriture créative, à la scénarisation des films et à la poésie. Le festival littéraire de Georgetown, GTLF, est le plus grand festival littéraire au monde organisé en Malaisie et le premier événement littéraire en Asie du Sud-Est à recevoir le prix du Festival de littérature au London Book Fair International Excellence Award. GTLF célèbre la littérature mondiale, la traduction et les arts littéraires, avec divers écrivains, artistes et penseurs de divers lieux et disciplines, se réunissant chaque année pour engager un discours intellectuel. Ce festival a généralement lieu tous les derniers week-ends de novembre. L'entrée au festival est gratuite pour tous les membres de la communauté. Bon, chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur sur trois écrivains indonésiens invités comme conférenciers au Festival international de la littérature. On se rencontrera demain avec le sujet différent. Merci et au revoir. Tahu.
dada. Ku kan ada untuk selamanya, meski tak bisa bersama. Ku mencinta.
Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Mima » chantée par Abdul. Vous êtes toujours avec nous, la voix de l'Indonésie, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voynews.id. Chers amis, pour l'heure suivante, avant de terminer cette émission, nous allons présenter une chanson indonésienne.
Bonsoir, chers auditeurs, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie. Et ce soir avec moi Audrey. Cette fois, je vais vous présenter une chanson de la région de Bali intitulée Don Dap Dapé. Cette chanson illustre la joie des jeunes hommes et femmes. La forme des cantines qui ont le même son à la fin de mot rend cette chanson agréable à écouter. Cette chanson s'agit aussi de jeunes hommes et femmes balinais poli pour accueillir les invités qui visitent Bali. Cela se reflète dans les paroles ci-dessous. Don dap dapé, don dap dap lum lum gading. Panak panak piu di kedaton. Titiang tembe tun menginding. Anak-anak liu rawuh menonton. Ngiring mangkin masuka rena. Ampura ugi para semeton sareng sami. À peu près, ça signifie comme ça. Les feuilles d'adap jaunissant, jeune banane dans le château. Cette fois, j'ai semblé chanter. Beaucoup de gens sont venus regarder. Soyons heureux maintenant. Toutes mes excuses à vous tous. Bon, chers auditeurs, voici la chanson d'Elfa Singer intitulée Don Dap Dap. Bonne écoute.
Don Dap Dap Pe, Don Dap Dap.
Titiang nambe, titiang nambe,
Chers auditeurs auditrices dans le monde entier, c'était l'émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.